Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue du Grain à Moudre. Ce soir, l'Espagne peut-elle se relever du séisme catalan ? Des routes régulièrement coupées par des militants indépendantistes, à l'opposé des symboles indépendantistes arrachés par des unionistes dans des lieux publics, la querelle autour de l'indépendance de la Catalogne continue aujourd'hui en Espagne, un an et demi après ce qui a été vécu comme un tremblement de terre dans le pays et en Europe, le référendum et la déclaration manquée d'indépendance. Cela fait donc un an et demi, même un peu plus, que ce sujet structure, phagocyte même le débat politique en Espagne. C'était le cas hier et avant-hier lors des deux débats organisés avant les élections législatives anticipées, élections prévues dimanche. C'était le cas aussi pendant la campagne, avec comme conséquence l'émergence au niveau national d'un parti d'extrême droite, Vox, qui a fait de la lutte contre l'indépendantisme catalan l'un des axes majeurs de son discours. Une campagne par ailleurs parasitée ou alimentée, c'est selon, par le procès de 12 dirigeants catalans, procès historique encore en cours deux mois après son ouverture. Vous l'avez compris, la question catalane divise profondément la société espagnole, elle révèle aussi des fractures plus anciennes et peut-être plus profondes, bref, elle fragilise, sans en être la seule cause, l'unité du pays. L'Espagne, nation affaiblie, peut-elle se relever du séisme catalan ? C'est le sujet du Grain à Moudre ce soir. Pour en débattre, trois invités. Nassima Baron, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes agrégée de géographie, professeure à l'université Paris-Est, et vous avez écrit, co-écrit précisément, deux livres sur l'Espagne, Les Espagnols déterminés, publié par les ateliers Henri Dougier, et L'Espagne en crise, avec un S entre parenthèses à crise, parce qu'il y en a plusieurs, on va le voir. Tout cela, c'est chez Armand Collin. Carole Vignals, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maître de conférence à l'université de Lille, vous travaillez sur l'Espagne post-franquiste, et particulièrement sur les mouvements contemporains et avec eux les médias traditionnels, sur les médias traditionnels et les réseaux sociaux. Et puis en direct au téléphone avec nous, Benoît Pellistrandi, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historien, professeur en classe préparatoire au lycée Condorcet à Paris, très bon connaisseur de l'histoire contemporaine de l'Espagne et auteur récemment, le livre est sorti il y a deux mois seulement, du labyrinthe catalan, c'est aux éditions Desclés de Brouwer. En quelques mots, avant de se lancer dans l'étude de ce cataclysme et de ce séisme catalan, en quelques mots rapidement, comment pourriez-vous décrire la situation politique actuelle en Espagne, Nassima Baron ? Dans quel état est l'Espagne aujourd'hui ?
Moi, je dirais que c'est une transition politique inachevée, finalement, dont les racines...
Vous faites référence à la transition politique de la fin des années 70 ?
Non, peut-être plus récemment. Hein. C'est un moment de passage. Il y a eu la fin d'un cycle bipartiste, hein, vers 2014, parce que la vie politique était très structurée autour de l'équilibre entre un parti socialiste, le PSOE, et un parti populaire, très assis aussi sur des structures nationales, régionales, puisqu'il y a des partis autonomiques, et on va bien sûr en parler par rapport à la Catalogne. Et là est arrivé un premier choc, avec donc les élections de 2014, puis de 2015, et l'arrivée de deux nouveaux partis très importants, Ciudadanos, qu'on a placé au centre, qu'aujourd'hui on place plutôt au centre droit, et puis Podemos, bien entendu, dont on a entendu parler en France, évidemment, et qui a aussi développé une présence politique importante à la Chambre, mais aussi, on pouvait en parler peut-être aussi dans des villes.
Transition inachevée, c'est aussi votre sentiment, Carole Vignales ?
Alors moi, je vais rajouter par rapport à ce qu'a dit Nassima, avec laquelle je suis bien entendu tout à fait d'accord, que la Catalogne a beaucoup joué dans l'éclatement de la droite, évidemment, ainsi que les affaires de corruption, puisque maintenant, avant, on avait une droite, c'est-à-dire le PP, maintenant on a trois droites qui donc vont devoir s'allier, comme ça a été le cas en Andalousie, pour pouvoir gouverner.
Ciudadanos, le Parti Populaire et Vox.
Vox. Donc on a trois droites, ce qui n'était pas le cas avant, et à gauche, il y a Podemos et il y a également le Parti Socialiste, donc c'est un panorama politique qui est complètement éclaté, ce qui n'était pas le cas. Et il y a un deuxième aspect qui, moi, me touche beaucoup, puisque Nassima a parlé de transition, c'est le fait que ce sont des tout jeunes, maintenant, qu'on voyait dans les débats. Pedro Sánchez, c'est le plus vieux, il avait 3 ans quand Franco est mort, donc c'est une génération de politiciens espagnols qui sont nés et ont grandi sous la démocratie.
Donc des cadres génères.
Voilà, donc on passe vraiment à un autre monde.
Benoît Pellistrandi, sur ce constat, dans quel état est l'Espagne aujourd'hui ?
Moi, je partage ce qui vient d'être dit. Et effectivement, je crois qu'on est dans une mutation du système politique, ce qui explique le caractère particulièrement tendu de la campagne électorale. Car nous avons des élections générales ce dimanche, Chambre des députés et Sénat, et dans un mois, le 26 mai, élections municipales, élections régionales dans 12 des 17 régions espagnoles et élections européennes. Ça veut dire que donc, à toutes les échelles de locales, régionales et nationales, le pouvoir va être redistribué. Or, comme nous sommes face à 5 partis, il va forcément y avoir des vainqueurs et des vaincus, et les vaincus auront à conduire un processus de refondation pas simplement idéologiques, mais aussi d'appareils, de partis, de militants, ça sera extrêmement difficile. Mmh. Et je pense que c'est la raison pour laquelle chacun sent confusément que c'est l'élection qu'on ne peut pas perdre. Or, en même temps, il n'y a pas de culture de coalition gouvernementale en Espagne. Dans les débats télévisés, c'était très frappant de voir que chaque candidat se plaçait effectivement en président potentiel du prochain gouvernement et que personne n'a véritablement tendu la main à l'autre pour construire un programme de gouvernement. Et ça veut dire vraiment qu'on est dans une recomposition dont on ne peut pas savoir encore quels seront les équilibres, puisqu'on est dans l'incertitude la plus complète quant au rapport de force qui sortira des urnes dimanche soir.
Pays donc en recomposition politique, on l'a bien compris, transition inachevée comme vous le disiez, Nassima Baron.
Oui, c'est tout à fait vrai. C'est peut-être dans votre introduction que j'ai trouvé qu'il y avait un sentiment un petit peu catastrophiste. Cataclysme, catastrophe...
Séisme, oui.
Séisme. Voilà. Alors attendez, c'est la vie démocratique, mm-hmm. Donc le renouvellement dont on parle, on va pas se plaindre, enfin pourquoi se plaindre ? On va peut-être aussi, je l'espère dans le cours de cette émission, dégager aussi des évolutions et des dynamiques qui peuvent aussi aller dans un sens peut-être, pourquoi pas, innovant, créatif, voilà, du nouveau aussi.
Alors intéressons-nous encore, attardons-nous un peu sur l'état actuel de l'Espagne. Recomposition politique, donc, disiez-vous, dans un pays qui apparemment est traversé aussi par des tensions, hein, comme beaucoup d'autres pays, des tensions sociales, des tensions territoriales, des tensions administratives aussi. On va y revenir donc avec la Catalogne dans quelques instants. Tensions administratives entre l'État central et certaines régions, communautés autonomes. Tensions aussi entre les communautés autonomes.
Écoutez, oui, en quelques mots, l'Espagne traverse des défis nombreux. Ouais. Donc, bon, on a toujours un petit peu, l'Espagne c'est un peu la tragédie, c'est un peu rouge et noir, donc bon, prenons les choses un peu plus rationnellement, les défis sont importants. Et les différents partis doivent faire face à deux, trois gros sujets, la pauvreté et les inégalités sociales. C'est un pays où il y a des très riches et un pays où, dans les villes, il y a 25 à 30% de population sous le seuil de pauvreté, donc il y a un sujet de cette nature. Alors on est sorti de la crise, mais il y a une précarité de l'emploi, une saisonnalité. Là on arrive sur l'été, des jobs dans le tourisme, mais il y a des problèmes à long terme, la productivité, l'éducation, les retraites, c'est un sujet qui peut aussi concerner d'autres pays, peut-être le nôtre, mais voilà quand même la question des services publics, ce qu'on appelle l'État-providence, qui est interrogé du point de vue de la santé, du point de vue de la solidarité. Cette solidarité, elle est donc intergénérationnelle, mais elle peut être aussi territoriale. Car les personnes âgées, elles sont peut-être dans certaines régions et pas dans d'autres, évidemment, peut-être plus rurales, peut-être, les fractures sont aussi à ce niveau et vont avoir un lien avec la manière dont justement l'État distribue des financements et peut-être aussi réfléchir à la place de la Catalogne, qui est quand même très peuplée, plus dynamique.
Qui est l'une des régions les plus riches d'Espagne.
Voilà, et qui contribue au PIB. Enfin voilà, il y a un sujet aussi autour de cette nature qui a aussi engendré finalement le problème catalan politique dont on parle aujourd'hui.
Et pour renforcer ce qui vient d'être dit, en fait, avant que les élections ne commencent, il y a un groupe de gens qui a émergé, qui se sont manifestés. C'est ce qu'on appelle l'Espagne vacía, l'Espagne vide. Mmh. C'est l'Espagne rurale dont on n'avait pas du tout entendu la voix et qui voudrait être reconnue et qui voudrait avoir par exemple un réseau Wi-Fi, ce genre de choses.
Ça rappelle quelque chose en France, hein, on parle de la diagonale du vide en France, le mot fait écho aussi à la situation française.
Voilà, mais eux ont donné de la voix pour se faire entendre récemment et c'est aussi un enjeu, c'est-à-dire cette Espagne-là, elle existe.
Politique.
Voilà.
Benoît Pellistrandi.
Oui, sur le plan politique, cette Espagne vide représente un véritable enjeu électoral. Il y a environ 25 circonscriptions qui n'élisent que de 2 à 5 députés et ça représente 120 sièges à peu près. Or, on a une proportionnelle, pas intégrale, mais qui est corrigée, c'est à la meilleure moyenne, la loi Dont, si bien que la division du vote à droite sera peut-être dans ces circonscriptions-là, le facteur qui donnera au Parti Socialiste un avantage considérable en nombre de sièges, alors que peut-être...
Sera
plutôt à droite.
On a une petite coupure, Benoît Pellistrandi, avec la ligne. On va essayer de vous rappeler et pour avoir une ligne un peu meilleure. Nassima Baron.
Oui, j'abonde ce que dit Benoît, mais pour le géographe qui parle, sachez que cette Espagne des deux Castilles, cette Espagne dite vide, elle a des densités inférieures à la Laponie.
Ah oui.
Enfin, on se l'imagine peu. Hein.
Oui, c'est vrai que c'est... Ça crée un choc quand même quand on dit des choses comme ça.
C'est un sujet territorial.
Effectivement.
Depuis longtemps, avec des villages abandonnés, et une très longue histoire qui s'ancre aussi dans l'histoire espagnole de l'exode rural et du développement des villes et de la métropolisation.
Oui, ça a commencé dans les années 60. Mmh.
Compte tenu de ce qui vient d'être dit, est-ce que la cohésion du pays est fragile, Nassima Baron? C'est ce que vous écrivez dans l'un de vos livres.
Pour moi, l'Espagne, c'est une telle diversité, effectivement, de lieux, de milieux, de régions, que cet assemblage fait réfléchir les intellectuels espagnols depuis bien longtemps. Cette idée de la vertébration, c'est un mot qui est intéressant, qui est peu connu en France. Mm-hmm. Il est extrêmement difficile à traduire, mais les grands intellectuels...
Il est assez parlant, quand même.
Voilà, mm-hmm. Les grands intellectuels espagnols, Ortega y Gasset, Unamuno, enfin, toute une histoire, effectivement, autour de la pensée du territoire, se sont interrogés sur la manière dont, différents territoires, la Galice, le Pays Basque, la Catalogne, l'Andalousie, les Castilles, mm-hmm. les royaumes, l'Aragon, ont fait nation, voilà. C'est un processus historique. C'est un processus historique donc dynamique qui a connu évidemment les conflits que l'on a tous en tête au XXe siècle. Et cette idée de vertébrer ou de d'invertébrer un peu le territoire me semble intéressant comme idée.
Mmh. Benoît Pellistrandi, c'est une nation, l'Espagne?
Oui, c'est une nation, mais une nation problématique et une nation qui doute d'elle-même. Du coup, l'historiographie espagnole, depuis une trentaine d'années, utilise l'expression de « nation de nation » et le deuxième terme au pluriel. Mmh. Et on l'a vu dans la crise catalane, la grande revendication, c'est de dire « la Catalogne est une nation ». Et quand le tribunal constitutionnel a invalidé une partie du statut d'autonomie réformé en 2006, il a notamment invalidé le préambule qui disait clairement que la Catalogne était une nation. Alors, il était obligé juridiquement de l'invalider, parce qu'à ce moment-là, ça allait contre l'idée constitutionnelle qu'il existe une nation espagnole qui est souveraine, la souveraineté appartient à tous les Espagnols. Là, on aurait créé un concurrent à la souveraineté espagnole qui aurait ouvert la voie éventuellement un processus d'autodétermination. Ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'il ne fait pas de doute pour l'extérieur que l'Espagne est une nation, alors qu'à l'intérieur, effectivement, on ne cesse, depuis environ 150 ans, de s'interroger sur les formes de la nation espagnole, l'échec de la nation espagnole, et c'est un discours qui revient. Et ce qui est très frappant, c'est qu'aujourd'hui, le parti d'extrême droite, Vox, qui est une scission du Parti populaire en réalité, et qui est né en 2015 contre position estimée trop modérée de Mariano Rajoy, eh bien Vox réclame effectivement, vante les mérites de la nation espagnole, et Santiago Abascal, l'un de ses leaders, vient de publier un livre manifeste électoral qui s'appelle effectivement « España vertebrada », l'Espagne vertébrée. Donc on retrouve toute cette thématique dont Nassima Baron venait de parler.
Carole Vignals.
Oui, alors moi je voulais rajouter par rapport à ce qui a été dit, que qui dit nation dit histoire nationale collective construite, avec tout ce que ça peut supposer de mythologie derrière. Or en Espagne, il y a certes un problème territorial, nous en avons parlé, c'est-à-dire ces nationalités, nations, régions, chacun entend par nation ce qu'il veut, mais il y a aussi le problème de la mémoire historique récente. Hein. Vous connaissez tous les débats par rapport à la dépouille du dictateur que Pedro Sánchez voulait enlever de son mausolée. Va-t-il partir? Ne va-t-il pas partir? Alors moi, j'ai travaillé par exemple sur les livres de texte des enfants et l'histoire de l'Espagne contemporaine ne fait partie que du dernier chapitre des manuels scolaires. Elle n'est en général même pas traitée par la plupart des enseignants parce que ça reste un sujet extrêmement conflictuel. Alors Santiago Abascal, dont parlait Benoît il y a un instant, lui, l'Espagne nationale qu'il revendique, a quand même des couleurs néo-franquistes assez marquées.
Merci, ma Baron.
Je rebondis parce que, on va parler de Barcelone et de la Catalogne. Depuis quelques années, on arrive à Barcelone, on voit des drapeaux catalans aux fenêtres. Ouais. Hein. Bon, c'était un phénomène assez puissant en 2015, 16 et 17. Il n'y avait plus beaucoup de fenêtres sans drapeaux. Ce qui est beaucoup
plus récent. Les manifestations sont impressionnantes aussi.
Pour revenir à la question de la nation, comme par effet de, j'allais dire, de réponse, aujourd'hui c'est des drapeaux espagnols qui apparaissent. Vox parle, enfin présente des symboles un peu sentimentaux, des drapeaux partout, des insignes, des, on est dans l'émotionnel, on est dans la volonté.
Dans tout le pays.
Maintenant voilà, ça a fait ressortir la volonté d'expression d'une appartenance à la nation espagnole, que quand même, qui n'appartient peut-être pas uniquement aux Espagnols qui votent Vox, mais peut-être aussi à d'autres. Et donc, voilà, il y a aussi un sujet autour de ça.
Carl Vignals.
Alors, c'est vrai qu'on a assisté à une guerre des drapeaux et c'était très frappant quand j'étais allée à Madrid il y a quelques mois. C'est quelque chose qui était inimaginable. Il y a 2 ans, des drapeaux espagnols à toutes les fenêtres.
Voilà.
Et ça, c'est très frappant. Et par contre, quand on regarde des reportages, il y a aussi d'autres drapeaux qui apparaissent. Dans les manifestations, il y a beaucoup de drapeaux républicains. Traditionnellement, c'est le rouge, jaune, mauve. Mmh. Et il y a aussi, et ça, c'est quelque chose qui est très frappant et c'est dû à l'émergence de Vox, des drapeaux préconstitutionnels, c'est-à-dire des drapeaux avec l'aigle et qui renvoie à la nation espagnole telle que Franco la concevait aussi.
Voilà, préconstitutionnel, c'est avant la constitution
de 1978.
Parlons des indépendantistes catalans, donc, vous l'avez évoqué, au centre du débat politique ces dernières semaines, à 4 jours maintenant aussi des élections législatives. Tous les partis donc en parlent, en ont fait un thème majeur de leur campagne. Exemple, lors du premier débat entre les dirigeants des 4 principaux partis, on les a évoqués, Parti Populaire, PSOE, Ciudadanos et Podemos. Vox n'était pas invité parce que, pour le moment en tout cas, le parti n'est pas représenté au Parlement. 4 principaux partis, 4 hommes donc d'ailleurs, pas de femmes dans ce débat. Débat qui a souvent tourné autour des indépendantistes. Dans l'ordre, vous allez écouter Pedro Sanchez, le Premier ministre sortant, Pablo Casado du Parti Populaire, Albert Rivera de Ciudadanos et Pablo Iglesias de Podemos.
Et l'indépendantisme ?
Les indépendantistes ont le droit de savoir que l'indépendance n'aura pas lieu. Ils savent que le problème en Catalogne n'est pas l'indépendance, mais la cohabitation. Avec un gouvernement socialiste, il n'y aura pas d'indépendance, il n'y aura pas de référendum pour l'indépendance, et la Constitution ne sera pas violée.
De la Constitution espagnole.
Ce qui est inacceptable, c'est que vous avez conclu un accord avec ceux qui veulent diviser l'Espagne. C'est incroyable que vous ne soyez pas prêt à dire que vous ne gracierez pas les prisonniers s'ils sont condamnés par la Cour suprême. Enfin, dites-le.
Je veux un Premier ministre qui ne se met pas à genoux devant ceux qui veulent détruire l'Espagne. Un Premier ministre qui soutient l'Espagne et rejette les nationalistes. Je veux l'indépendance, oui, mais être indépendant de Quim Torra, de Carles Puigdemont et de ceux qui crachent sur l'Espagne.
De rufián de los que escupen a España.
Beaucoup de gens nous regardent et sont peut-être troublés à l'idée que nous ayons des drapeaux différents, des gens qui ont des opinions différentes et qui parlent des langues différentes. Et si nous cherchons ce que nos concitoyens ont en commun, peut-être nous pourrions trouver des exemples. Quand quelqu'un va à l'hôpital, personne ne lui demande s'il a voté pour le Parti Populaire, s'il est séparatiste ou s'il est socialiste.
L'unité de l'Espagne déclinée différemment selon les candidats. Pedro Sanchez, le Premier ministre sortant, donc attaqué par les deux candidats de droite, on vient de l'entendre. Benoît Pellistrandi, la crise catalane, cette crise catalane qui, encore une fois, structure en partie en tout cas le débat politique espagnol, pourquoi cette crise mobilise-t-elle autant le débat ?
Oh ben parce qu'elle a cassé un des piliers fondateurs de la démocratie espagnole. Il y a le pilier de libéralisation et de démocratisation, il y a le pilier de décentralisation, et il y a le pilier intégration dans l'Europe et les valeurs européennes. Or, effectivement, le modèle constitutionnel créé en 1978 avec les communautés autonomes et une décentralisation absolument considérable qui a donné aux régions des pouvoirs énormes. On évoquait tout à l'heure la question de l'éducation. Il faut quand même savoir que dans les régions qui possèdent une langue, 55% du programme d'histoire est défini par les régions elles-mêmes et seulement 45% par l'État, et que le ministère de l'Éducation nationale en Espagne, c'est presque une coquille vide. Le fait que la Catalogne, par cette demande d'indépendance, et surtout, je dirais, par le fait d'avoir choisi la voie unilatérale, c'est-à-dire d'avoir lancé une offensive extrêmement violente vis-à-vis des institutions, a créé effectivement un traumatisme national qui a d'abord obligé d'appliquer l'article 155 de la Constitution, qui fort heureusement avait été prévu et qui était dans une logique quasi fédérale, le fait que bah, si un des acteurs de l'État fédéral ne respecte plus les règles, eh bien le pouvoir central peut intervenir. Mais on s'était toujours gardé d'avoir recours à ce qu'on considérait comme l'arme nucléaire, parce qu'en plus ça renvoyait à des souvenirs liés à la Seconde République, à la suspension de l'autonomie de la Catalogne en 1934, donc ça renvoyait effectivement à des souvenirs extrêmement douloureux et très mauvais. Donc tout ça a représenté une mise à l'épreuve du système constitutionnel et du système politique espagnol sans précédent. C'est la crise, à mon avis, à mes yeux, la plus grave que l'Espagne ait eu à traverser depuis la guerre civile espagnole. Donc on comprend que ce n'est pas un incident de parcours, c'est un tremblement de terre. Là, je rejoins votre analyse, c'est un séisme qui a recomposé du coup la géologie politique du pays et qui fait que des choses que l'on croyait oubliées ont affleuré à nouveau. C'est effectivement la résurgence de toute cette thématique néo-franquiste qui est là, alors qu'on pensait qu'elle avait été d'une certaine façon absorbée à l'intérieur du Parti populaire et dans le cadre d'une droite qui s'était démocratisée. Et effectivement, le fait que aussi cela réapparaisse, réactive un discours républicain, parce qu'on a derrière la crise catalane aussi le débat république contre monarchie. Voilà, donc tout ça fait résonance, et effectivement, ça met le système en vibration, et en vibration extrêmement négative.
Bon, et ce système, Nassim Abaron, est-ce qu'il a bien résisté? Dans quel état il se trouve?
C'est tout à fait vrai ce qui vient d'être dit, mais... C'est-à-dire la Catalogne, il y a une quinzaine, vingtaine d'années, on parlait beaucoup du Pays Basque, il y avait des violences, il y avait des difficultés. La situation paraît peut-être plus pacifiée aujourd'hui au Pays Basque et la crise catalane existe. Il y a 40% de la population espagnole qui vit dans des régions avec une langue co-officielle. Et donc, c'est cette discussion qu'on peut avoir sur la manière dont on a un peu formaté les consciences dans un certain nombre de régions du point de vue, puisque les communautés autonomes ont eu des pouvoirs, ça a pu aussi exister dans d'autres régions. Alors, pourquoi la Catalogne? Peut-être vraiment quelques dates. Allez-y. Parce que ça fait une bonne quinzaine d'années, finalement, qu'on est dans une spirale dont on ne sait pas trop comment sortir, je crois. Il y a eu un problème de rédaction de nouveaux statuts d'autonomie lancé par Zapatero, donc on est au début des années 2000, un processus...
Ancien Premier ministre espagnol,
voilà, on est en
socialiste.
2004-2005, il s'agit de rédiger des statuts, c'est proposé à la Catalogne, mais d'autres communautés autonomes espagnoles vont aussi se lancer dans l'exercice, et donc, bon, voilà, la Catalogne écrit un texte, ça passe à Madrid, c'est voté en région, et 4 ans plus tard, la justice dit, comme il l'a expliqué tout à l'heure Benoît Pellistrandi, évidemment, nation, ça passe difficilement. Là, il y a une frustration, il y a une problématique qui croise une autre transformation importante, une autre évolution importante au sein de la vie politique catalane. C'est CIU, ce parti important, Convergència i Unión, avec finalement la fin du pujolisme. Peut-être que Jordi Pujol, c'est un nom qui fait écho.
Ancien voilà, président de la communauté.
Qui a fait, la communauté catalane, qui avait porté l'époque des Jeux Olympiques, une époque un peu flamboyante, mais qui, a fini aussi un cycle politique dans une série de scandales. Et donc, Artur Mas, qui vient du CEU, arrive en 2012 et, sur la base de cette frustration, engage un bras de fer avec Madrid. Ce bras de fer qui va conduire, avec des épisodes successifs, 2014 avec un vote, puis 2010, puis alors après, fur et à mesure, 2017, des dates importantes. Le 1er octobre, donc, tout le monde s'en souvient,
le référendum
et 27 octobre la proclamation de la République. Voilà.
On voit bien la spirale que vous décrivez, Nassima.
Voilà. Et depuis, voilà, ça fait donc maintenant un an et demi, une situation qui est quand même extrêmement tendue, extrêmement compliquée. En ce moment, c'est le procès des...
Carole Vignal, vous dites-vous, alors est-ce que c'est lié avec cette spirale que vient de décrire Nassim Abaron, qu'il y a aussi en Catalogne, que vous connaissez bien puisque vous y avez vécu, un basculement vers les extrêmes?
Oui, bien sûr, puisque la société catalane est désormais, et elle l'a été à partir du 2 octobre, profondément divisée. Il y a deux Catalognes, la Catalogne indépendantiste, et là c'est l'indépendantisme actuel est un indépendantisme que certains experts appellent indépendantisme de masse. On les appelle los indepes, c'est pas les indépendants artistes, c'est les indep. Ce sont des masses de gens qui sont... Donc la société est vraiment brisée. Et quant à la réaction de l'État espagnol par rapport à tout ça, moi, ça me semble très intéressant parce qu'on a beaucoup parlé du rôle des réseaux sociaux dans la déclaration d'indépendance. Beaucoup d'experts sont d'accord pour dire que sans doute que Puigdemont n'aurait pas déclaré l'indépendance s'il n'y avait pas été poussé par les réseaux sociaux, puisque le niveau de violence dans les réseaux sociaux exigeait de lui qu'il la proclame. Et par contre, maintenant, pour moi, et ça c'est mon analyse, on est dans une autre temporalité, qui est la temporalité judiciaire, qui est on étale, des témoins donnent leur vision, et là, semaine après semaine, il y a des tas de choses qu'on ne savait pas, qu'on finit par apprendre. Mais c'est une temporalité complètement différente.
La justice,
et c'est la justice. Et donc, je pense que ça, c'est une réaction qui, quelque part, me semble intéressante de la part de l'État espagnol, le judiciaire.
France Culture, du grain à moudre, Antoine Genton.
L'Espagne peut-elle se relever du séisme catalan? C'est la question dont nous débattons ce soir dans Le Grain à Moudre. Nous en parlons avec nos invités, la géographe Nassima Baron, l'historien Benoît Pellistrandi et l'hispaniste Carole Vignals, qui faisait référence donc au temps judiciaire il y a quelques instants. Référence au procès actuellement en cours, 12 dirigeants indépendantistes, plutôt ex-dirigeants, dont Oriol Junqueras, le chef d'un parti indépendantiste de gauche, mais pas Carles Puigdemont, qui lui est exilé en Belgique. C'est le gouvernement de droite, hein, de Mariano Rajoy, qui a initié ce procès, en tout cas ce développement judiciaire. Parmi les accusateurs d'ailleurs aussi, et particulièrement virulents, il y a Vox. Est-ce que c'est un procès politique que celui qui a été donc initié et qui a commencé il y a maintenant 2 mois, Benoît Pellistrandi?
C'est la thèse que défendent naturellement les indépendantistes catalans et qui ont absolument raison d'un point de vue tactique de se placer en victime. Car un des autres éléments très très forts qu'il faut comprendre pour expliquer la crise et l'état actuel de la Catalogne, c'est que les indépendantistes ont échoué et qu'ils ne peuvent pas le dire à leur électorat. Ils ne savent pas comment le dire à leur électorat. Donc il faut maintenir la fiction, faire croire que le combat continue. Et c'est d'ailleurs une divergence très profonde entre d'un côté Carles Puigdemont qui a fui à Waterloo et qui veut rester dans cette stratégie de confrontation, et Oriol Junqueras qui lui est en prison, qui est un vrai indépendantiste et qui lui a compris qu'il fallait reprendre le combat politique en amont, c'est-à-dire il n'y a pas de majorité sociale pour l'indépendance, donc il faut reconstruire depuis les institutions catalanes cette majorité sociale pour essayer un jour de passer à 55, 60, 65%, et dès lors qu'à ce moment-là il y aura 65% de gens véritablement favorables à l'indépendance, il y aura un caractère inéluctable. Du coup, comme ils ne veulent pas reconnaître cet échec politique, parce que forcément il y aurait des conséquences sur le plan électoral, d'ailleurs on les verra dès ce dimanche, puisque les enquêtes d'opinion montrent que c'est plutôt la gauche républicaine catalane d'Oriol Junqueras qui devrait rafler la mise et que le Parti démocrate de Catalogne de Carles Puigdemont est en train de s'effondrer visiblement. Mais pour naturellement l'État espagnol, il ne s'agit pas d'un procès politique, ce ne sont pas des idées indépendantistes qui sont accusées, on peut tout à fait être indépendantiste, sont accusées des personnes qui, dans l'exercice de leur pouvoir, ont abusé de leurs fonctions, ont dépassé leur pouvoir, ont détourné de l'argent public pour organiser ce référendum, et c'est tout ça que la justice essaye de montrer, alors avec des débats qui sont tout à fait passionnants, et effectivement, le fait d'appeler les témoins, on a les acteurs qui finalement disent chacun leur vérité, la manière dont ils ont vécu ces événements, et on assiste à une déconstruction de ce discours nationaliste qui faisait croire à une unanimité catalane, alors que, comme l'a très bien rappelé Carole Vignals, ce qu'on a aujourd'hui, c'est une Catalogne fracturée. Je dirais, en réalité, le vrai problème n'est pas l'indépendance de la Catalogne. Elle n'aura pas lieu à court et à moyen terme. Le vrai problème, c'est comment recoudre une société catalane qui s'est complètement déchirée. Et ça passe par la déchirure des familles même.
Carole Vignals s'approuve. Nassima Baron.
Ah oui, quand on suit un peu ce procès, les mots, les chefs d'inculpation sont très lourds. Hein, ouais. Sédition, rébellion.
25 ans de prison, requis contre Oriol Junqueras.
Et on entend aussi les dépositions de la garde civile, des Mossos d'Escadras. Donc ce qui s'est passé aussi, puisque la question c'est aussi la violence. Qui a exercé la violence sur sur les votants ou les votants sur...
Qui a commencé.
Voilà.
D'où part la violence.
Et moi, je dirais trois choses. On est quand même un petit peu en suspension, cette problématique. Temporalité judiciaire, temporalité politique. Sanchez, il doit agir avec la Catalogne, mais ce procès suspend un peu les choses. Le temps judiciaire est toujours long. Mmh. Donc là, il est aussi
Sanchez,
un petit peu...
qu'il faut le rappeler, est allié aux indépendantistes catalans.
Voilà. Ça laisse quand même trois points de suspension. Dans le temps, comment vont pouvoir se gérer ces deux temporalités? La deuxième, c'est qu'il a peu de marge de manœuvre parce que le PP, on vient de le dire, en parlant un petit peu des différents partis, est complètement fermé à l'idée de réfléchir à un modèle territorial un petit peu plus adapté, avec peut-être une évolution des compétences accordées, une transformation, une évolution de cette décentralisation qui est déjà extrêmement poussée. Du côté des barons régionaux, on demande des compétences, on demande aussi plus de marge de manœuvre fiscale. Et puis troisième point qui explique peut-être justement la difficulté de vous répondre de manière très précise, c'est que donc ces partis indépendantistes sont très divisés. Et donc on vient de parler de Esquerra Republicana, donc la gauche républicaine qui a cette dimension indépendantiste. On vient de parler du parti de PD4. Et il faut peut-être parler de la CUP. Donc aussi des plus radicaux c'est aussi la présence de ce petit parti de gauche. Gauche de la gauche, qui s'est allié donc dans le Junts per Sí, qui a produit effectivement cette chambre parlementaire qui a poussé un petit peu à des décisions très fermes autour de cette marche indépendantiste. Et derrière la CUP, il y a aussi la gauche, on va peut-être parler un petit peu de Barcelone si vous voulez, avec quand même une maire, Ada Colau, qui a dû se positionner par rapport à tout ce processus, et on a des municipales aussi sous peu.
Ce sera à la fin du mois de mai, en même temps que les élections européennes et les élections régionales, et l'élection à Barcelone, élection municipale, à laquelle va participer quelqu'un qu'on connaît bien en France, Manuel Valls, qui lui se présente sous une étiquette plutôt de centre-droit, si les choses n'ont pas vraiment évolué depuis quelques semaines. Rapidement.
Manuel Valls, il part du principe que Barcelone, c'est une ville cosmopolite, c'est une ville européenne, c'est une métropole, il faut redonner ce rayonnement que Barcelone a eu après les Jeux Olympiques, au début des années 2000, alors que Ada Colau, elle va parler de problèmes de gestion, des problèmes de logement, des problèmes, c'est une activiste contre les évictions, et elle a dû faire face à des très grands problèmes autour, par exemple, de la saturation touristique et du fait que les touristes qui ont connu une croissance à Barcelone ont fait augmenter les prix du logement avec Airbnb de manière assez exponentielle.
On parle beaucoup de la Catalogne, Carole Vignal, je vais vous donner la parole. Les Catalans font tout pour aussi, compte tenu de cet enchaînement autour de l'indépendance. Est-ce qu'il n'y en a pas un peu trop pour elle, que pour elle, parmi toutes les régions espagnoles? Vous, encore une fois, vous la connaissez bien, cette région.
Alors moi, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Benoît Pellistrandi, sur évidemment la défaite. Et évidemment qu'il y a une défaite des indépendantistes. Mais en même temps, vous savez, le jour national de la Catalogne, c'est le 11 septembre. Ils fêtent une défaite. Leur grande figure politique, c'est Lluís Companys, qui avait été remis par les nazis à Franco pour se faire fusiller. Les grandes figures du catalanisme, de l'indépendantisme, ce sont des gens que l'on fusille, ce sont des martyrs. Alors évidemment, quand je voyais moi Oriol Junqueras amaigri, parce qu'il était amaigri, puis il avait l'air fatigué, parce que la prison c'est pas drôle, et quand on les voit, ces gens-là, on se dit, c'est des profs universitaires, c'est des gens comme nous, on s'identifie très facilement à ces gens-là. Donc, ils ont été en prison, c'est dur. Moi, je pense que les Catalans, ils ont un don pour cette espèce de métempsychose des politiques. Vous savez, normalement, la politique, c'est quelque chose qui dégrade les gens. Macron en sait quelque chose. Par contre, les politiques catalans, il leur arrive des choses tellement abominables qu'ils finissent par devenir, et c'est le cas d'Oriol Junqueras et des républicains catalans, ça devient des figures quasi mythiques. Et ça, je trouve ça extraordinaire.
Bon, il nous reste quelques minutes, 5 minutes pour terminer cette émission. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer en Espagne, maintenant qu'on a fait le constat de la situation politique en Espagne, qu'on a parlé aussi des causes, des racines avec cette crise catalane? En somme, Benoît Pellistrandi, comment faire pour que l'Espagne se relève? Comment faire pour qu'elle puisse tourner la page des indépendantistes?
Ça va être compliqué. Tout dépend d'abord du résultat de dimanche. Il est très incertain. Les enquêtes d'opinion semblent donner un avantage aux socialistes.
30% environ des voix.
Voilà, il serait autour de 135 sièges d'après les dernières projections. Mais la difficulté, c'est avec quel partenaire. Est-ce qu'ils vont avec Podemos et donc faire une majorité de gauche? Les milieux d'affaires sont tout à fait hostiles à cette hypothèse. Est-ce qu'ils font alliance avec les centristes de Ciudadanos? Ciudadanos a clairement dit non. Donc moi je n'écarte pas l'hypothèse d'un blocage, celui qu'on a observé en 2015, où il y avait eu des élections et pendant 6 mois le Parlement avait été incapable d'élire un chef de gouvernement et à ce moment-là il a fallu répéter les élections en juin 2016. Donc le premier scénario serait celui de ce blocage. Le deuxième scénario, c'est celui effectivement d'une victoire des socialistes qui réussissent à construire une majorité. Alors donc j'évoquais les deux hypothèses, mais mettons malgré tout avec les centristes, à cause des pressions très fortes que les milieux d'affaires feraient, aussi les moyens de communication, le groupe Prisa autour d'El País plaide absolument pour cette hypothèse. Ou, troisième hypothèse, qui n'est pas totalement à exclure, une victoire surprise des droites, c'est-à-dire comme on a adouci le fait que la division finalement donne la majorité à la droite, et alors tout dépendra des équilibres à l'intérieur de la droite, si le Parti populaire est suffisamment fort pourra-t-il avoir un gouvernement minoritaire ou en coalition avec Ciudadanos et que Vox ne soit qu'un partenaire, un soutien parlementaire? Ou est-ce que Vox sait ce que l'on murmure dans certains circuits officiels à Madrid et dans la presse? Est-ce que Vox pourrait passer devant Ciudadanos et avoir une quarantaine de députés, voire plus, auquel cas on aurait un véritable tremblement de terre, parce qu'à ce moment-là, ce seraient les équilibres à l'intérieur de la droite, même s'il était majoritaire, qui lui rendraient peut-être le gouvernement impossible.
On l'entend, beaucoup d'incertitudes autour de ce scrutin, beaucoup d'incertitudes en Espagne. C'est ce que vous dites, Nassima Baron, c'est le maître mot actuellement pour vous, compte tenu de la situation.
Les jeux sont ouverts, mais il y a aussi des fondamentaux intéressants. Vous connaissez un pays qui fait 2,6% de croissance par an? C'est pas la France quand même. Donc derrière, une reprise économique, c'est au-dessus de la moyenne européenne. On sent effectivement qu'il y a, quand le bâtiment va tout va en Espagne, on voit que ça repart. Parce qu'il y a eu des investissements et il y a aussi des investisseurs étrangers internationaux, des fonds de pension et des Chinois. Mais bon, il y a une dynamique économique qui reprend. Ça veut dire que l'État reprend des marges de manœuvre. L'État embauche des fonctionnaires en Espagne. Oui. Derrière, réfléchit à la manière de refinancer un peu plus fortement la Catalogne, qui a quand même été, c'est un peu la crise, l'une des raisons de la crise, était un peu entre guillemets infrafinancée par rapport à d'autres régions. Et derrière ce printemps aussi, cette reprise, il y a quand même aussi réfléchir à la place de l'Espagne en Europe, parce que c'est la question des présidentielles. Les Espagnols sont européistes en général et depuis longtemps, il y a cette, peut-être aussi pour surmonter leur fractures internes, mais ils se commencent à se demander s'ils ne commencent pas non plus à ressembler à l'Italie, avec justement la montée en puissance de mouvements populistes, cette fracture, cette société un peu écrasée. Donc c'est un peu, entre éléments positifs et puis éléments un petit peu plus négatif.
Vous êtes inquiète, vous, Carole Vignals, de la situation aujourd'hui en Espagne?
Alors moi, lors des débats, j'avais été très surprise de voir Pablo Iglesias, qui chargeait contre la Constitution 78 jusqu'à il y a peu, arborer sa Constitution et dire qu'il y avait peut-être des choses à modifier, mais que ce n'était pas si mal après tout.
On pourrait modifier des choses dans la Constitution.
Mais disons que l'Espagne, je pense que c'est un pays assez résilient par rapport à ses douleurs du passé, par rapport à ses fractures. C'est un pays qui est resté quand même uni malgré ces régionalismes et toutes ces nationalités. C'est un pays qui a surmonté des traumatismes historiques que très peu de pays auraient surmonté quand même.
Il nous reste vraiment 30 secondes, Nassima Baron. Il y a quelqu'un dont on n'a pas parlé encore, c'est le roi dans cette histoire, le roi Felipe VI, qui avait pris parti contre les indépendantistes catalans. Est-ce qu'il peut jouer un rôle actuellement pour tenter d'apaiser les tensions qui traversent l'Espagne aujourd'hui?
Bien sûr, le roi joue un rôle à l'intérieur et le roi joue un rôle à l'extérieur, pour porter l'image, l'unité et l'image de la présence espagnole en Europe et dans le monde. Et l'Espagne se pose aussi la question de sa présence dans l'espace euro-méditerranéen, dans les équilibres, mais aussi les difficultés et les risques que pose cet espace. Moi, je crois que l'Europe du Sud est vraiment l'Espagne et l'Europe du Sud est vraiment un sujet aussi sur lequel on peut réfléchir dans le cadre de la dynamique de notre continent européen.
Bon, on va terminer sur cette note d'espoir, donc sur la situation en Espagne. On suivra très attentivement évidemment le résultat des élections législatives anticipées. Ce sera dimanche dans la soirée. C'est la fin de cette émission. Merci à tous les trois. Nassima Baron, professeur à l'Université Paris-Est, Carole Vignals, maître de conférence à Lille, et Benoît Pellistrandi, historien, professeur en prépa au lycée Condorcet à Paris. Un grand merci à l'équipe du Grain à Moudre. Comme chaque soir, Virginie Leduo, Fanny Richer, Jean-Christophe Brianchon, Antoine Dulster, Antoine Tricot et Cyril Marchand. Réalisation ce soir, Payeret Legras, prise de son, Anthony Thomasson. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast et sur franceculture.fr à la page du Grain à Moudre, une page d'ailleurs sur laquelle vous trouverez aussi quelques références bibliographiques en lien avec le sujet de l'émission. La dispute, c'est dans 3 minutes et c'est avec vous Arnaud Laporte.
Absolument, une dispute art plastique ce soir, des expositions évidemment à notre programme et le programme du Grain à Moudre demain, Antoine Janton.
C'est un sujet qui fait polémique. Comment interpréter aujourd'hui les œuvres d'art d'hier? Émission en partenariat avec nos confrères de La Croix, comme chaque mois, comme chaque fin de mois.
Merci beaucoup, Antoine. Vous écoutez France Culture, il est 19h, l'heure de retrouver Aurélie Kiefer pour les titres de l'actualité.